chapitre 2, mais on est quand même au chapitre 1. Hein. Ah, t'as lu chapitre 1 ? Oh, je t'avais dit 2. À la fin, ouais. Ouais. J'ai pensé lui dire 2, j'ai dit... Okay. Mais les hommes, ils ont lu le chapitre 2. Hein. Voilà. Donc, on va pas relire, parce que vous connaissez bien maintenant le chapitre, vous pouvez presque le réciter par cœur, je pense. Hein. 1 Timothée, et on est au verset, à partir du verset 3, on avait dit que l'apôtre Paul fait une recommandation à Timothée. Et c'est quoi cette recommandation ? Qu'est-ce qu'il peut me dire rapidement ? C'est quoi la recommandation que Paul fait à Timothée ? C'est l'amour. Ça c'est, on pourrait dire, ça c'est vraiment l'atmosphère dans laquelle il veut faire les choses. Mais qu'est-ce qu'il lui commande précisément ? C'est vrai, il dit que le but c'est l'amour. Mais qu'est-ce qu'il lui demande de faire ? Il demande de faire quelque chose. Voilà. Voilà, d'empêcher à certaines personnes d'enseigner des fausses doctrines, des doctrines autres, il dit. On avait dit que autre, hein, c'est le mot qui veut dire, duquel on tire hétérogène, hein, un autre, etc. Donc il dit, il faut pas d'une autre nature. Et donc il dit, il faut pas qu'il y ait des gens qui fassent cela. Mais il dit de le faire à la manière que laquelle il le commande de le faire, c'est une manière assez vigoureuse, hein, c'est-à-dire qui demande vraiment qu'il y ait un résultat. Et il ajoute que le but de cette recommandation, c'est l'amour. Et on avait vu que l'amour vient de ce qu'il dit ici, trois choses. C'est quoi ? Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Il dit que quand les gens se détournent de ces choses-là, de l'écriture, de cette manière de rechercher, de ce qui promue l'amour, eh bien, il dit, il s'égare. Hein. Il s'égare dans des discours qui sont des discours creux, des discours vides. Il avait dit que ces faux enseignants, ils veulent être des docteurs de la loi, mais qu'ils ne comprennent ni ne savent. Non, il dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et on avait soutenu qu'il était important, je crois, je pense, je prends les deux applications qu'on avait vues ici, que ce n'est pas parce qu'un enseignement se base sur l'écriture qu'il est conforme à l'écriture. On va faire ça. Donc, eux se basaient sur l'écriture pour un certain nombre de choses. Mais il faut être très vigilant, hein, par rapport aux gens qui nous disent, voilà, c'est écrit dans la Bible, etc. Ou nous-mêmes, hein, quand nous approchons de la Bible, en disant, ça, c'est écrit de la Bible, pour croire que ce que l'on fait est un enseignement biblique. Et puis, on doit apprendre aussi à développer une conception scripturaire de l'amour. Hein. C'est pas l'amour n'empêche pas que l'on dise les choses, même des choses parfois qui sont difficiles, qui sont douloureuses, qu'on prenne des fois des décisions qui sont difficiles à prendre, mais il faut les prendre. Et donc ce n'est pas incompatible avec l'amour. Donc on arrive au verset 8, et l'apôtre Paul ajoute, « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. » Voilà, jusque-là, notre lecture pour ce soir. Alors, question qui était sur votre papier, qu'est-ce que, selon vous, l'apôtre Paul cherche à établir dans les versets 8 à 11 concernant la loi et son usage ? Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à cela ? Quand vous avez lu, est-ce que... Non, ça ne vous a...
C'est pas pour les pécheurs, c'est un enfant de Dieu, il obéit, c'est un enfant de Dieu, mais ils n'ont pas besoin de la loi pour obéir, ils obéissent par amour, ouais. Ils agissent, la loi est écrite dans leur cœur, ils obéissent par amour.
Oui, oui, bien, ok.
Par amour pour Dieu.
Par amour pour Dieu, oui, bien sûr. Oui, voilà, donc ça c'est une vérité. Quelque chose d'autre, vous avez quelque chose d'autre à noter à propos de ça ?
La loi
est un
établi pour condamner les pécheurs.
La loi établie pour condamner les pécheurs, oui. On peut dire ça, c'est ce qu'il dit, hein, ici. D'autres choses ?
Elle est faite pour juger.
Elle est faite pour juger, oui. D'autres ? Pêcheur. Oui, voilà, il y a un lien quand même. Hein, c'est... Oui, quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose là, ici ? J'avais entendu un bruit par là, non ? Non. Oui.
À propos du verset 8, la loi peut être détournée de bon usage.
Oui.
Si elle est faite avec un esprit pharisaïque.
Oui. Voilà, d'accord, oui, c'est ça.
C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure.
Ouais.
Ce n'est pas parce que quelque chose est dans la Bible que l'enseignement
qu'on en tire est biblique. Voilà.
Ça vient de l'esprit et d'une bonne attitude.
Voilà, oui, c'est ça, ok. Donc voilà, ça c'est le verset 8. Hein. Il dit que la loi, elle est bonne, mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Très bien. Et donc on va rester là. Donc ce que vous avez dit est juste hein, ici. Donc on pourrait dire que ce que Paul dit au verset 8, hein, il parle de, quand il dit la loi est bonne, il parle de la nature de la, un peu, moi j'ai mis comme ça le titre, en tout cas, la nature de la loi. Hein. Il dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Okay. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que la loi est bonne? Pourquoi est-ce qu'il, à votre avis, il le dit qu'il éprouve le besoin ici de le dire, que la loi est bonne. Parce que toute la loi de Dieu est excellente.
Elle dépend du bien de l'homme.
Oui.
Et elle a sa gloire.
Elle a sa gloire, exactement.
La loi est bonne
parce que ça fait du bien. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il le dit. On essaie de voir pourquoi est-ce qu'il... Parce qu'il dit des... Si on regarde par rapport à ce qu'il a dit avant. Oui. Oui. Oui, mais les faux docteurs, qu'est-ce qu'ils faisent avec la loi? On avait vu, hein, ils font quoi? Ils disent, il avait dit qu'ils se veulent quoi? Docteurs de la loi, comme la loi de Moïse. Hein, donc ils devaient utiliser la loi pour faire un certain nombre de choses, pour spéculer. On avait dit, hein, ils montent des discours, ils font avec des discours vains. Au verset 3, il avait dit qu'ils n'ont de les empêcher d'enseigner d'autres doctrines qui ne font... Ils s'attachent à des fables, à des généalogies sans fin, et tout ça, ça produit des discours creux, et ça n'a fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Donc on pourrait penser qu'ils faisaient des choses particulières avec la loi. Et Paul dit que ça n'est pas bon. Hein. Par exemple, quand on parle des judaïsants qui voulaient faire pratiquer des choses de la loi pour pouvoir... et il disait que c'était exigé pour pouvoir recevoir le salut, eh bien, il faisait aussi des choses avec la loi. Et en fait, moi, je pense que Paul insiste là-dessus, c'est pas la seule fois où il insiste là-dessus, hein, dans beaucoup de ses lettres. Il insiste sur le fait que, qu'il faut écarter toute idée de justification par la loi. Il se bat avec ça, hein, même dans ce qu'on a vu dimanche avec les Philippiens, hein. Il se bat avec ça, hein. Donc parce que beaucoup veulent faire utiliser la loi comme moyen de salut. Et dans beaucoup de ses lettres, l'apôtre Paul parle de cela, particulièrement dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Galates, hein, où il parle de cet aspect de la justification par la foi. Et ce faisant, il a parfois été mal compris par les Juifs ou même par les on appelle les judéo-chrétiens, hein. Et parfois les gens pensaient que il rejetait complètement la loi. Et on a un exemple flagrant de ça en Actes chapitre 21. Regardez Actes chapitre 21. Actes chapitre 21. Et on va lire à partir du verset, pas tout lire là, mais, Actes chapitre 21, verset 17. Actes chapitre 21, au verset 17, oui. Donc Paul est à Jérusalem, hein. il vient, il fait, on pourrait dire, c'est un compte-rendu missionnaire, hein, comme quand on reçoit des fois des missionnaires qui sont partis, ils repassent, et puis ils font un compte-rendu de l'œuvre. Et il dit ceci à partir du verset 17. « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. » Ah, on a eu Jacques il n'y a pas très longtemps. Hein, « chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes que tous les Juifs qui sont parmi les païens de renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, ils sauront que ce qu'ils ont entendu dire à ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Alors, c'est un texte qui est un peu parfois troublant quand on le lit comme ça. Hein. On se dit, oh, ben, est-ce que Paul est en train de... Mais en fait, pas du tout. Paul, l'apôtre Paul n'a jamais rejeté la loi en tant que telle. Hein. Il s'est toujours opposé à toute utilisation de la loi comme moyen de salut. Il a fait circoncire Timothée. Timothée, qu'on est en train de voir, il a fait circoncire Timothée parce qu'il savait que ça pourrait ouvrir des portes pour le ministère. Mais Tite, il n'a refusé que Tite soit circoncis. Et quand il y a eu tout un débat là-dessus, lui-même, parfois, à un moment donné, dans Actes chapitre 18, il s'est fait raser la tête parce qu'il avait fait un vœu. Donc il accomplissait certains rites de cette manière-là. Et puis aussi, on lit qu'il allait à la fête, Actes chapitre 18, verset 21, il dit qu'il faut que j'aille à Jérusalem pour la fête. Paul n'a jamais été contre l'observation de la loi. Il ne demandait pas aux Juifs qui se tournaient vers à Christ de ne plus observer la loi. Il se mettait en travers de tous ceux qui voulaient dire, qui voulaient enseigner qu'il faut accomplir les rites, la loi, pour pouvoir être sauvé. Et donc, ce n'était pas juste de dire ça. Donc, voilà pourquoi je pense, en tout cas, ça c'est mon avis, la raison pour laquelle il dit, la loi, elle est bonne. Hein, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter la loi. La loi, elle est bonne. Mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc, il ne dit pas, ne faites pas ça. Il dit, mais si ça, vous le faites pour espérer être sauvé, ça ne vous sert à rien. Au Galates, il dit, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. D'accord ? Et donc, il insiste vraiment sur cet aspect-là. Voilà, donc, à quoi est-ce que on pourrait se poser en Romain, par exemple, hein, je vois ça là, en Romain, il dit, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et un peu plus loin, il dira même que la loi, elle est spirituelle. Moi, je suis vendu au péché. Donc, Paul ne veut pas ici que ni Timothée, je pense, ni l'Église se méprennent sur ses propos. Et donc, il dit que la loi est bonne à condition, bien sûr, qu'on en fasse un usage légitime. Et donc, en quoi est-ce que la loi est bonne ou utile? Ou comment en apprécier l'utilité ici? Alors, il dit en faisant plutôt un usage légitime. Alors, ça veut dire quoi un usage légitime? Le mot légitime, est-ce que vous avez regardé ce que ça est le mot légitime? Peut-être quelqu'un a regardé, non? Le mot légitime, qu'est-ce que ça veut dire?
Des fois, on dit une femme légitime,
ouais.
C'est sa vraie femme.
Sa vraie femme, ouais. Donc, un usage légitime, c'est son vrai usage. On pourrait dire ça, oui, c'est vrai. L'usage vrai de la loi, oui. Oui. Quelqu'un d'autre a une idée? Non. Bien, le mot vient du mot grec nomismos et qui est dérivé du mot nomos. Vous connaissez le mot nomos, vous avez déjà entendu parler. C'est le mot qui veut dire loi, simplement. Donc c'est un dérivé du mot qui veut dire loi. Et le sens ici, c'est le sens de règle, d'une loi, d'une règle. Par exemple, l'apôtre Paul l'utilise une autre fois dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5 quand il dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Et c'est le même mot ici, d'accord? Donc quand il dit légitime, c'est les règles. C'est-à-dire qu'il faut faire un usage de la loi suivant des règles bien précises. Donc, il faut utiliser la loi de manière correcte. Il faut l'utiliser droitement. Il y a une manière de l'utiliser, une manière de la comprendre, une manière de s'en servir. Elle est bonne si on reste dans ce cadre d'utilisation-là. Parce que ces faux enseignants utilisaient la loi, bien sûr, pour spéculer, pour échafauder des mythes. Les pharisiens voyaient dans l'obéissance stricte de la loi eh bien, un moyen d'être justifié. Et en ce sens, ils ne faisaient pas un bon usage de la loi. Et ce qu'on dit souvent, ce que les pharisiens faisaient, donc ils cherchaient, ils avaient la loi et puis ils cherchaient comment faire pour pratiquer correctement la loi. Et ce, si vous voulez, ce moyen-là pour pratiquer correctement la loi devenait une loi elle-même. Okay? Et puis ils voulaient observer aussi, et faire observer aussi ces choses-là. Donc, voyez, et puis ils disaient que ça, si on ne fait pas comme cela, bien, on ne peut pas être sauvé. Donc Paul dit qu'il y a un usage droit qu'on peut faire de la loi. Et si on fait cet usage tel qu'il doit être fait, eh bien, la loi est profitable. Et je vous dis une citation là que j'ai trouvée dans la Bible à noter. Elle dit, l'auteur dit par exemple ici, l'apôtre veut dire, en disant que la loi est bonne si on en fait un usage légitime, l'apôtre Paul veut dire que la loi atteint son but quand l'homme pénètre jusqu'à son essence même. Il la saisit dans sa profonde spiritualité. Quand il en éprouve la sainte influence, quand il est amené par elle à la connaissance de son péché et de sa corruption. Voilà, dans ce sens-là, on pourrait dire que la loi vraiment trouve son utilité hein, quand on l'utilise suivant des règles bien précises. Donc c'est important pour nous, quand nous lisons la Bible, de comprendre cela. Il ne suffit pas de lire et puis d'appliquer quelque chose qui ne peut pas nous être appliqué de manière directe. Il faut comprendre ce qu'elle dit et l'utiliser telle qu'elle doit être utilisée. On ne lit pas tous les livres de la Bible de la même manière. Hein. Donc il y a une importance pour nous ici, et pour chaque personne, hein, d'être attentif à la manière avec laquelle on utilise la parole de Dieu. Et puis deuxièmement ici, regardez le verset 8, il dit donc, nous savons que la loi n'est pas, le verset 9 pardon, nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, etc. Et tout ce qu'on a lu jusqu'à la fin ici. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant. Est-ce que vous avez, cette phrase vous a un peu, vous a paru un peu étrange. La loi n'est pas faite pour les justes. Qu'est-ce que vous avez compris de cela? Oui.
La loi est dans leur cœur.
Voilà, c'est ça. Ok. Elle n'est pas faite pour eux, donc ils peuvent s'en affranchir.
Non, elle est déjà dans leur cœur.
Déjà dans leur cœur.
Non, déjà dans leur cœur.
Donc elle est faite pour eux alors aussi.
En fait, quand on dit qu'elle n'est pas faite, c'est juste pour apprendre aux pécheurs.
Oui.
Pour montrer aux pécheurs qui est Dieu,
oui.
Ce que Dieu demande,
oui.
Que celui qui se repent, eh ben, il va marcher forcément selon la loi.
Oui.
La loi est faite surtout pour enseigner déjà.
Oui.
Et puis, comme disait Patricia, pour convaincre.
Oui, bah, c'est ça ce que vous avez dit, c'est ça, hein, elle est dans le cœur, hein, comme disait aussi Marcel, vous avez dit ça tout à l'heure aussi, je crois. Et elle est, voilà, et celui qui est un enfant de Dieu, il aime la loi de Dieu, même. D'accord, mais donc ce que Paul dit ici quand même, c'est que la loi a un but et une fonction. Quand il dit la loi n'est pas pour, mais elle est pour, pas pour les justes, mais elle est pour, il dit que la loi a quand même une fonction, hein. Et donc ça, c'est important peut-être qu'on se pose la question, quel est le but de la loi? Quel est le but de la loi? Donc vous avez déjà en partie répondu à cela. Donc l'apôtre Paul n'explique pas ici, dans ce passage, quel est le but de la loi, mais c'est une grande question, hein, que les chrétiens se sont posées souvent, hein, quel est le but de la loi, et particulièrement la loi de Moïse dans la vie du croyant évangélique aujourd'hui, hein. Quel est le but de l'Ancien Testament, on pourrait dire presque, dans le Nouveau Testament. C'est une quand même question qui a pas divisé, mais où les gens avaient des idées. Apparemment, il y a beaucoup d'idées qui circulent là-dessus. Et même quand les chrétiens, parfois parlent entre eux, hein, on ne lit pas très souvent, parfois, l'Ancien Testament, parce qu'on dit, bon, ça c'est la loi, nous ne sommes plus sous la loi. Il y a des personnes qui parlent comme ça. Nous ne sommes plus sous la loi. Donc, ce que la loi dit, ça ne m'intéresse plus. Moi, c'est le Nouveau Testament qui est la chose la plus importante. Mais bon, ici, l'apôtre Paul n'en parle pas, mais on peut quand même regarder ce qu'il dit très rapidement à quelque endroit parce que ça peut nous éclairer. L'apôtre, par exemple, en l'épître de Galates, parle de la loi. Galates chapitre 13, chapitre 3, pardon. Prenez Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, et l'apôtre Paul dit un certain nombre de choses concernant Abraham, la promesse faite, etc. Et Galates chapitre 3, et à partir du verset 10 peut-être, hein, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais il dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à la descendance, c'est-à-dire à Christ. Verset 17, voici ce que je veux dire. Donc là, il résume, hein, si on n'a pas compris. Il dit, un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Il dit que la loi que Dieu donne à Moïse 430 ans après Abraham, il dit, elle n'est pas annulée par la promesse qui a été faite à Abraham. La promesse de Dieu précède la loi qu'il a donnée à Moïse. Et la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Donc, c'est la promesse du salut par la foi en Jésus-Christ. Hein. Il dit ça a été fait. Et puis il dit ici, car si l'héritage, verset 18, venait de la loi, il ne viendrait pas de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de grâce, de sa grâce. Et puis voilà la question. Donc évidemment, il anticipe la question que peut poser. Pourquoi donc la loi? Quelqu'un disait, pourquoi est-ce qu'on ne saute pas directement d'Abraham? Pourquoi est-ce qu'il a fallu avoir la loi? À Jésus-Christ, il dit, elle a été donnée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. C'est-à-dire que la promesse, elle est là. La promesse, elle est valide. Mais en attendant l'accomplissement de la promesse, Dieu donne la loi et il dit qu'il la donne à cause de la transgression. Il parle qu'il y ait deux sens ici pour comprendre cela. La transgression, c'est-à-dire pour limiter, c'est une loi qui limitait les hommes dans leur péché, un peu comme quand il dit dans l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, voilà, puisqu'ils ont le droit de se venger, mais ce n'était pas une loi pour se venger, c'était une loi pour limiter la manière avec laquelle l'homme naturel se venge. Hein. Si on lui enlève un œil, il enlève deux à l'autre. C'est comme ça qu'il fait. Alors c'est une loi qui était là pour limiter. Donc quand il dit ici qu'elle est donnée pour la transgression, à cause de la transgression, il dit ben, pour pouvoir limiter un peu le péché, mais aussi pour pouvoir révéler complètement que le cœur de l'homme est mauvais, révéler vraiment sa transgression, révéler le péché. Donc la loi, on pourrait dire, prévient et révèle la transgression. Et c'est ce qu'on peut lire un peu, bon, on ne va pas lire tout ce passage dans Galates, mais aussi dans Romains, il dit que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de, non plus, de transgression. Là où il n'y a point de loi, c'est ça, il n'y a pas non plus de transgression. C'est-à-dire que quand il y a la loi, la transgression est révélée. Et l'apôtre Paul dira cela quand il parle dans Romains chapitre 7, il dit je n'ai connu le péché que par la loi. Si la loi nous dit quoi, tu ne convoiteras point, bien, toi, il n'est pas connu qu'il convoite. Ça ne veut pas dire qu'il ne convoiterait pas, mais il n'aurait pas eu connaissance de ce péché particulier. Donc la loi, vous l'avez dit tout à l'heure, les sœurs l'ont dit, hein, ici a été donnée pour révéler aussi le péché, la transgression, montrer à l'homme combien il est pécheur. Et c'était nécessaire dans le plan de Dieu. Donc la loi est un révélateur. La loi indique le péché, le met en évidence. Il fait mesurer que cet acte est une révolte contre la volonté de Dieu. Et la loi éclaire la conscience sur le péché. Et l'homme a besoin d'entendre qu'il agit contre la volonté de Dieu. Hein. La loi est souvent présentée de manière négative. Hein. Tu ne, si vous lisez les 10 commandements, c'est quasiment toujours négatif, hein, n'est-ce pas? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne feras point. Tu n'auras pas de faux Dieu devant ma face, etc. C'est quelque chose qui est présenté sous forme négative parce qu'on est tellement pécheur que c'est comme cela que l'on peut comprendre les choses. Hein. Quelqu'un disait une fois, pourquoi est-ce que Dieu ne présente pas la chose de manière positive, hein? Voilà. Mais présente, non, c'est comme des interdictions. Bien, quelqu'un dit, c'est comme quand on est avec un enfant. On ne lui dit pas, bon, on ne fait pas une explication scientifique sur le feu. On ne lui touche pas à ça. Mais on ne va pas lui dire, mais tu sais, le feu, c'est des molécules, machin, c'est de l'oxygène. C'est pas ça qu'on va lui dire. Et que si tu mets ta main, il va se passer des choses. Non, on donne des ordres, on dit, ne fais pas ceci. Mais dans le ne fais pas ceci, il y a toute la volonté de celui qui donne l'ordre, hein, qui pour protéger, mais aussi pour exprimer la volonté de celui qui donne l'ordre. Donc quand Dieu donne des commandements qui sont négatifs, il y a en même temps contenu dans ces commandements négatifs toute la volonté de Dieu. Donc la loi, on pourrait dire, oui, elle révèle à l'homme son cœur pécheur, mais elle révèle aussi la grandeur et la sainteté de Dieu. Hein. Quand il dit « tu ne commettras point d'adultère », cela évoque le fait que Dieu veut que les hommes apprennent à se respecter les uns les autres, etc., qu'ils manifestent, qu'ils témoignent de l'amour les uns envers les autres, etc. Donc il y a tout un aspect positif de la révélation de Dieu aussi, même dans son caractère, qui est contenu dans la loi. Alors on pourrait dire beaucoup de choses, hein, la loi, c'est le révélateur de l'incapacité de l'homme à se sauver aussi lui-même. Donc la loi est bonne vraiment parce qu'elle révèle à la fois la volonté de Dieu, mais aussi à l'homme son caractère pécheur mauvais. Et ça, la Bible l'enseigne très clairement. Alors ici, vous l'avez dit, mais le juste est des... On pourrait penser, ici, vous avez dit que le juste, c'est celui qui a la loi dans son cœur, c'est bien. Mais on pourrait penser aussi que le juste, c'est un peu ironique. Hein. Jésus le dit quand il dit, par exemple, « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » Et là, il ne parlait pas de juste qui a la loi de Dieu dans son cœur. Donc on pourrait penser un peu les deux ici. L'apôtre Paul pourrait dire aussi, la loi, elle n'est pas pour les justes, pour ceux qui se croient justes, mais pour les pécheurs, un peu le même sens. Mais c'est vrai que le sens que vous avez choisi est celui que je choisis aussi, c'est-à-dire on peut aussi voir plutôt là qu'il parle de de l'homme juste, c'est-à-dire celui qui est justifié par la foi en Jésus-Christ. Et il dit que la loi n'est pas faite pour lui. Le juste, hein, il désigne vraiment ce croyant, ce juste que la Bible appelle, le croyant que la Bible désigne aussi par ce terme-là, hein, juste. Le juste vivra par la foi. Hein. Et donc l'Écriture l'appelle comme cela. Jésus dit du publicain qui priait, celui-ci est descendu justifié dans sa maison. Donc le juste aussi représente ici, en tout cas, parle aussi du croyant. Et donc, quand elle dit que la loi n'est pas faite pour les justes, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ça veut dire, je le prends comme ça, mais ce que vous avez dit, c'est juste, c'est que la loi ne se dresse pas contre celui qui est justifié. On peut voir que la loi se dresse contre le pécheur, quelque part. Elle lui dit que c'est pas... Mais contre celui qui est justifié, la loi ne se dresse pas. Et dans ce sens, elle n'est pas faite pour le juste, hein, parce que le juste, normalement, il obéit, il cherche à obéir à la loi de Dieu. Effectivement, il a un cœur renouvelé, un cœur transformé. Comme Jérémie le dit, hein, Dieu a ôté le cœur de Pierre, il lui a mis un cœur de chair, un esprit nouveau. Et même Dieu fait en sorte que sa loi soit appliquée, qu'il puisse obéir à sa loi. Donc le juste, ici, la loi n'est pas faite pour le juste dans le sens qu'elle ne, on pourrait dire qu'elle ne se dresse pas contre lui. Et l'apôtre Paul le dit en Galates, un peu 5, verset 22, vous connaissez bien, quand il parle du fruit de l'esprit. Qu'est-ce que le juste a en lui de particulier par rapport au non-juste? C'est qu'il a en lui l'esprit de Dieu qui le guide et qui le pousse à vivre. Et que dit Galates 5, 22? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et le verset 23 dit, et la loi n'est pas contre ces choses. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Donc voilà, il dit que la loi de Dieu ne se dresse pas contre celui qui a l'esprit de Dieu, qui agit en lui de cette manière. Donc dans ce sens, on pourrait dire, effectivement, la loi n'est pas contre ces personnes. Et la loi n'est pas faite pour le juste. La loi, par contre, elle se dresse contre le méchant, contre le rebelle, les impies. Et d'ailleurs, ça se voit dans le sens où ils n'aiment pas la loi de Dieu. Vous voyez, le texte a parlé des homosexuels, là. Eh bien, allez parler aux homosexuels. Vous allez voir, dites quelque chose. Vous allez voir comment les gens se dressent contre la loi de Dieu. Et celui qui ne connaît pas Dieu se dresse contre cette loi. Et donc, il a l'impression que cette loi est un ennemi. Et donc, la loi, elle est faite pour pouvoir révéler, oui, bien sûr, l'attitude et l'état de son cœur. Et donc, la loi n'est pas faite pour le juste. Bien sûr, ne veut pas dire que le juste, il est libre à l'égard de la loi et qu'il peut faire ce qu'il veut. Il ne peut pas mettre la loi de côté. S'il s'écarte de la loi de Dieu, eh bien, cette loi-là devient, elle va redevenir bonne pour lui aussi, hein. Parce qu'il va devoir se rappeler, attention, il est en train de s'écarter de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit en Galates 5, 18 aussi, hein, je vous lis, il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc on voit ici, hein, dans ce sens, je pense qu'on peut soutenir que la loi n'est pas pour le juste. Donc le juste est celui qui est passé, pourrait dire, du régime de la loi à celui de l'Esprit de Dieu. Et donc, il donne ici, après, on n'aura peut-être pas le temps de voir tout ça, mais il donne une description ici des inconvertis, des meurtriers, des parricides, des débauchés, des homosexuels, des voleurs d'hommes, etc. Donc, on dit que, voilà, c'est un peu les commandements du décalogue qui sont repris ici. On peut retrouver dans pratiquement tout ce qui est dit là, Exode chapitre 20, hein, où les questions des 10 commandements, bon, on n'aura pas le temps de le voir, mais je vous laisse en exercice à la maison, hein. Essayez de retrouver les liens entre ce que l'apôtre Paul décrit ici comme injuste et puis les liens avec la loi dans l'Ancien Testament, en tout cas dans l'Exode 20. Et je voudrais juste conclure avec ce point, le troisième point ici. C'était la question que je vous avais posée ici. Quel est le lien que Paul établit entre la loi et l'Évangile? Quel est le lien qu'il établit entre la loi et l'Évangile ici? La loi conduit à l'Évangile. Oui, je crois qu'il y a ça un peu. Hein. Ça, le texte se termine comme ça un peu. Hein, il dit, bon, quelqu'un autre chose, peut-être autre chose? que vous avez... L'Évangile proclame la loi. L'Évangile proclame la loi, oui. 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 À cause du cœur. Oui. Voilà. Ok. Très bien. Ça, hein. Et donc, c'est ce qu'il dit au verset 11. Il dit, je vais lire le verset 10. Et il parle des débauchés homosexuels, des voleurs d'hommes, des menteurs, des parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Et il dit, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Donc, la loi. J'ai mis ici, il montre la conformité de la loi à l'évangile de la grâce. Hein, parce qu'il dit conformément à l'évangile ici. Donc la loi a pour but l'évangile de la grâce. On pourrait dire presque cela. La loi conduit à l'évangile de la grâce. Elle n'est pas contre l'évangile. Dans Galates 3, verset 21-25, on n'a pas lu, mais à un moment donné, l'apôtre Paul dit, la loi, quand il développe, il a parlé de la promesse d'Abraham, on l'a lu, ça vous vous rappelez, et puis la loi qui est venue 430 ans plus tard, et puis il dit, la loi est-elle contre les promesses de Dieu? Et il dit, loin de là. Il explique, parce que quand il donne ses explications, ce qui vient évidemment à l'esprit, c'est que c'est contradictoire, ces deux trucs. Hein. Et bien il dit, non, loin de là, la loi n'est pas contradictoire au... n'est pas contre les promesses de Dieu. Elle n'a jamais simplement été donnée dans l'intention d'amener à la vie, de donner la vie. Hein. Dieu n'a jamais prévu que la loi soit la loi toute seule soit le moyen de salut. Dans son plan, hein, il avait déjà, c'est la promesse qu'il avait déjà faite, et il donne la loi pour, on avait vu pour une raison ici particulière. Ainsi, l'évangile de gloire de Dieu est le plan initial et unique de Dieu pour le salut des hommes. Et cela passe par la loi. Et c'est pour ça que la loi est bonne lorsqu'on en fait un usage légitime. Donc l'évangile confirme, quelqu'un disait ça, la destination de la loi en mettant la loi à sa vraie place, en montrant que l'homme humilié, condamné par cette loi, ne peut ensuite être sauvé que par la grâce. C'est ce que disait Lucie tout à l'heure, hein, exactement, ne peut être sauvé que par la grâce. Et c'est pour cela même que cet évangile est si, on pourrait dire, glorieux. Hein. Il dit, c'est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Il proclame la gloire, la miséricorde, l'amour de ce Dieu souverainement heureux. Dieu est souverainement heureux, qui veut, par l'évangile, faire part de ce bonheur suprême à de pauvres et misérables créatures. Mais il donne néanmoins la loi pour passer par là. Et on peut imaginer, juste en terminant, ce qu'on ne saurait pas s'il n'y avait pas eu la loi, ou s'il n'y avait pas eu tout l'Ancien Testament. On ne saurait pas ce que c'est vraiment que le péché. On n'arriverait pas, enfin, je veux dire, dans son immensité, dans ce que ça produit, dans ce que ça coûte. Les sacrifices du Lévitique, quand on lit ça, on passe, on dit, oh, du sang, des choses. Ça paraît compliqué pour un lecteur, jeune lecteur, en tout cas de la Bible. De passer à travers les Lévitiques, hein, et puis ressortir là en disant waouh, c'était superbe. Hein. Non, il faut prendre ça avec l'épître aux Hébreux pour pouvoir bien comprendre des choses. Mais on comprend combien est grave le péché, ce que ça coûte, combien il a fallu de sang pour que le péché soit expié. Et puis ça pointe à chaque fois, chaque chose pointe vers qui? Vers Christ. Hein. La notion de roi, on a vu ça dans la vérité fondamentale. Les rois, les prophètes, et les prêtres, tout cela s'était donné pour diriger vers le roi, le prêtre et le prophète ultime, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc quand on regarde la délivrance de l'Exode, ça parle de la délivrance que Dieu accorde à l'âme qui se tourne vers lui. Donc tout l'Ancien Testament a un poids vraiment particulier. Et on ne peut pas le sauter en disant, tout à l'heure on parlait à quelqu'un qui dit, bon, on dit, il faut lire le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, je ne sais pas comment on avait dit ça, c'est l'enseignant, c'est ça qu'on avait dit tout à l'heure. Et puis l'Ancien Testament, c'est l'élève. Bon, c'est peut-être plus facile de lire l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. Mais l'Ancien Testament est tout aussi important, parce que là, on a tout là-dedans. Jésus enseignait à partir de quoi? L'Ancien Testament. L'apôtre Paul enseignait à partir de quoi? L'Ancien Testament. Lorsque Philippe rencontre l'eunuque éthiopien, il lit Ésaïe 53. Et la Bible dit que Philippe, commençant par ce passage, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il avait qu'Ésaïe 53. D'accord? Jésus, quand il rencontre les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, en commençant par Moïse et les prophètes, il leur raconte tout ce qui le concerne. Et il leur montre combien il fallait que le Fils de l'homme souffre ces choses et qu'il soit élevé dans la gloire. Donc, vous voyez, et ils font ça à partir de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul démontrait par l'Ancien Testament que Jésus est le Christ. Donc, il n'y a pas de c'est pas deux choses contradictoires, hein. L'une aboutit à l'autre. Le plan de Dieu a toujours été de sauver l'homme par la grâce. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous réjouir. Alors, juste deux mots. Nous devons donc, chers frères et sœurs, être vigilants sur la manière d'utiliser les Écritures, et particulièrement aussi l'Ancien Testament. On doit toujours être soucieux, bien sûr, de chercher à bien comprendre ce que la parole de Dieu dit, pour l'utiliser de manière légitime, on pourrait dire cela. Et puis, on ne fait pas de séparation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On doit apprendre, en tant qu'enfant de Dieu, apprendre à tout lire, tout apprécier, ne pas dire ça, c'est des lois qui ont été données avant. On fait ça surtout quand ça nous arrange, avec la dîme, par exemple. On dit ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour. Heureusement, nous, on est sous la grâce. On est sous la grâce. Il faut bien lire les textes. Il faut bien lire les textes. On a reçu beaucoup, donc on donne, n'est-ce pas? Et donc, on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples de choses que l'on repousse simplement parce que c'est dans l'Ancien Testament. On ne peut pas s'approcher ainsi des Écritures. Il faut les prendre avec sagesse, demander à Dieu la sagesse quand on les lit, quand on lit la parole de Dieu, et surtout toujours chercher à les lire de manière légitime, je reprends le mot, de manière droite, comme il doit être lu. Que le Seigneur nous aide dans ces choses, et qu'il nous aide à comprendre vraiment ce qui est contenu dans sa parole, et surtout qu'il nous donne des cœurs obéissants. La loi est bonne, on peut terminer avec cette phrase, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est-à-dire un usage qui est conforme à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et l'apôtre Paul dit, cet évangile-là, il m'a été confié. Il n'a pas été confié aux faux enseignants qui enseignent n'importe quoi, mais à moi, il m'a été confié. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, encore que nous avons pu ouvrir, que tu nous conduises à travers elle. Seigneur, que tu nous aides à l'aimer. Merci d'avoir mis dans nos cœurs ton esprit qui nous fait vivre ces lois, qui même fait en sorte que nous obéissions à tes lois. Tes lois ne sont pas pour nous pénibles, mais nous pouvons les aimer parce que ton esprit agit en nous pour produire l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, toutes ces choses que nous avons lues. Nous te louons pour cette grâce que tu fais à tes enfants, la grâce de te